franceinter.fr.
Un guépard italien vieux d'1,5 million d'années vient chasser aujourd'hui à la une de la science. Voilà. Et ça, c'est le guépard aussi, d'ailleurs, Axel.
Actuel, oui.
Qu'on entend.
Ça couine, un guépard.
Voilà. Ce gros chat de 80 à 100 kilos que décrivent les chercheurs italiens et français. Cette semaine, dans la revue Scientific Report, des canines d'environ 7 cm de long, une mâchoire effilée mais puissante, une cavité nasale resserrée. Voici ce que le rayon X du synchrotron de Grenoble a permis de découvrir à l'intérieur de cette roche découverte, donc, en Italie, dans les années 2000. Une imagerie en 3 dimensions de son crâne qui permet donc aujourd'hui de mieux comprendre les méthodes de chasse de ce carnivore du Pléistocène et dont on parle, Axel, avec notre invité.
On retrouve Vincent Fernandez en direct par téléphone. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paléontologue et chercheur au Muséum d'Histoire Naturelle de Londres. Et c'est vous qui avez scanné ce crâne en 2015. Quelle taille fait le bloc de pierre dans lequel le crâne du gros félin est emprisonné? On peut le dire comme ça, hein?
Oui, c'est exactement ça. Alors, il fait... On a juste l'avant du museau, on manque la boîte crânienne, et il fait à peu près 10 cm de long pour c'est à peu près un bloc de 10 cm dans toutes les directions.
Donc c'est un caillou avec des dents qui dépassent?
C'est à peu près ça.
Est-ce qu'avant de scanner le fossile au synchrotron, il était possible de dire de quelle espèce il s'agissait?
Alors, pas vraiment. Donc on avait la plupart, donc c'est déjà un crâne qui est assez partiel. Et du coup, avec la roche qui recouvrait la plupart des caractères qui sont habituellement diagnostiques, on n'arrivait pas vraiment à savoir de quelle espèce il s'agissait. Donc les rayons X ont permis d'accéder à ces caractères qui étaient cachés sous la roche.
Donc vous avez pénétré la roche pour voir la structure osseuse à l'intérieur. Et du coup, vous découvrez ce jaguar. C'est une espèce qui était déjà connue. J'ai dit jaguar, c'est guépard. C'était une espèce connue?
Oui. C'est une espèce qui est connue dans de nombreux sites un peu partout dans l'ancien monde. On en a du Maroc jusqu'à la Chine, on en a énormément en Europe aussi. Mais qui est c'est une espèce qui est très difficile à trouver complète. On a toujours que des petits fragments dans beaucoup de sites.
Et quand vous dites l'ancien monde, Vincent Fernandez, c'est quand ça commence, quand l'ancien monde, et ça se termine quand alors pour ce guépard?
L'ancien monde, c'est plus pour le côté géographique, c'est l'Europe par opposition au Nouveau Monde, l'Amérique.
Et alors du coup, du point de vue chronologique, il commence quand? Quand est-ce qu'on sait un petit peu quand est apparu cet animal ou pas?
Oui, c'est les plus vieux ont à peu près 2 millions d'années et ils ont disparu au moment de la dernière ère glaciaire. Donc il y a quelques dizaines de milliers d'années.
Ce qui est intéressant avec votre travail, Vincent Fernandez, c'est qu'à partir de l'avant d'un museau, vous êtes capable de dire comment ce félin chassait, chose qu'on ne savait pas avant. Alors expliquez-nous un petit peu la démarche derrière cette annonce que vous faites.
Alors notamment puisque c'est un représentant du genre des guépards, et les guépards ont une méthode de chasse qui est très particulière. Ils peuvent s'approcher doucement, ils se mettent à trottiner et d'un coup ils accélèrent, ils atteignent des pointes de vitesse de plus de 100 km/h et ils attrapent leur proie au cou et ils les tuent par strangulation. Mm-hmm. Donc c'est quelque chose qui est complètement différent des autres, des panthérinés, c'est-à-dire les tigres, les lions, les jaguars, qui eux vont plutôt favoriser les courses plus courtes déjà, et ils peuvent pas aller aussi vite, et ils vont mettre l'accent sur la puissance et essayer de tuer le plus rapidement possible, notamment avec l'aide de leurs grosses canines. Ils vont essayer de fracturer un morceau du crâne ou de s'insérer entre les vertèbres cervicales.
Et là, grosse surprise, ce guépard ne court pas si vite que ça, alors c'est quelque chose que vous annoncez dans la publication.
Exactement. Donc le guépard peut courir aussi vite parce qu'il est relativement léger. On a une moyenne de 40 kilos. Celui-là, vu les informations qu'on en a, on est plutôt sur une moyenne de 80 kilos. Donc on est un animal qui est deux fois plus gros. On a le guépard aussi peut atteindre ses pointes de vitesse parce qu'il a une cavité nasale qui est extrêmement développée, ce qui lui permet de réguler sa respiration et sa température lors d'un effort énorme de cette accélération brusque. Il peut compenser la production de chaleur grâce à cette grande cavité nasale.
Oui.
Celui-là, en étant beaucoup plus gros et en ayant une cavité nasale un peu plus réduite, ne pouvait certainement pas atteindre ses pointes de vitesse.
Ah oui, donc avec ce crâne enserré dans la roche, c'est ce que vous êtes capable de déduire. C'est vraiment la cavité nasale qui vous donne cette information.
La cavité nasale, et aussi, on a dans celui-là des canines qui sont plus grosses que chez les guépards actuels qu'on connaît.
Est-ce qu'il faut quand même continuer à l'appeler guépard préhistorique ou alors il faut que je trouve un autre nom ?
Non, ça reste un guépard parce qu'il a des caractéristiques crâniens qui sont typiques des guépards. Il a quand même un museau qui est beaucoup plus, qui est beaucoup moins développé que chez les autres félins. Les léopards ont un museau un peu plus allongé. Celui-là, il est beaucoup plus petit. Et donc, il a quand même ces caractéristiques-là. Il a le crâne qui est beaucoup plus courbé que les autres. Donc, c'est vraiment un guépard. Mais avec une tactique de chasse qui est plus proche des autres gros félins qu'on connaît.
Est-ce qu'on a des fossiles ailleurs en Europe qui nous montreraient que ce guépard a côtoyé, je ne sais pas, des membres du genre Homo ?
Ah oui, alors c'est une découverte qui avait été intéressante. C'est dans le site de Manissi, en Géorgie, où on a les premiers membres Homo erectus, qui sont donc la sortie de l'Afrique des hominidés, qui, sur le site où on a trouvé ces hominidés, on a aussi toute une association de très gros carnivores, dont ce guépard fossile, mais aussi avec des tigres à dents de sabre. On a plein de super prédateurs qui côtoyaient ces hominidés.
Que ce soit les félins ou les hominidés, les deux sont prédateurs. Est-ce qu'on sait lequel faisait fuir l'autre ? Comment étaient les interactions entre ces différents animaux et humains ?
C'est une question qui est pas encore tout à fait résolue. Ce qu'on sait, c'est que certainement même l'Australopithèque en Afrique du Sud, il côtoyait des gros carnivores. Donc c'était pas quelque chose qui était nouveau, mais c'est vrai que on est peut-être encore un peu tôt dans l'histoire des hominidés pour qu'ils aient été une véritable menace pour ces gros carnivores. Donc la balance penchait peut-être encore plus plutôt pour les gros carnivores à cette époque-là.
Et plus tard dans l'histoire des hommes, on a commencé à savoir les intimider et à les faire fuir, c'est ce que vous voulez dire ?
C'est ça, avec le développement d'outils plus sophistiqués, avec la maîtrise du feu, avec le développement de tactiques de chasse notamment. Enfin, c'est à cette époque-là, c'était peut-être encore un peu tôt pour ne serait-ce que ce qu'on appelle les tactiques kleptoparasites, c'est-à-dire de voler la nourriture en chassant l'animal qui a tué la proie. Donc c'était peut-être un peu tôt pour les humains d'essayer de chasser ces gros carnivores pour leur piquer leur nourriture.
Est-ce que vous en avez un spécimen au Muséum d'Histoire Naturelle de Londres, Vincent Fernandez, où vous travaillez ?
Ah, c'est quelque chose que j'ai pas vérifié. Tiens.
Ah, ben
peut-être.
Vous regarderez.
On a des collections qui sont fabuleuses, donc je serais pas étonné qu'on ait un représentant ici. Oui.
Merci beaucoup en tout cas. Et ça, c'est les travaux donc qui ont été réalisés grâce au rayon X du synchrotron. Merci beaucoup Vincent Fernandez et puis Axel. On se retrouve demain pour une nouvelle une.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, pour la première fois, des chercheurs ont réussi à créer des neurones dans un cerveau de souris. Ces chercheurs de l'université de Pékin ont utilisé un mélange de médicaments pour modifier la conformation des cellules particulières nommées astrocytes afin qu'elles se transforment en neurones. Ces cellules en forme d'étoiles sont intéressantes car très nombreuses et capables de survivre longtemps dans le cerveau. Pour l'heure, l'équipe cherche à savoir si les neurones obtenus sont fonctionnels. Si tel est le cas, ce serait une grande avancée pour les traitements potentiels contre Parkinson et Alzheimer. d'Alzheimer. Quelle température fait-il dans une voiture garée au soleil? Voici la très sérieuse étude qu'ont réalisée des chercheurs de l'Université d'Arizona visant à comparer la chaleur dans différents modèles de véhicules. Même à l'ombre d'un soleil de 38 degrés Celsius, la cabine d'une voiture économique grise chauffe à 38 degrés en moins d'une heure. Le tableau de bord atteint les 48 degrés, 40 degrés 5 pour les sièges. En plein soleil, le tableau de bord d'une voiture peut atteindre en une heure les 70 degrés. Des températures suffisamment importantes pour provoquer l'hyperthermie chez les enfants, une mort rapide. Aux États-Unis, 37 enfants meurent chaque année dans ces conditions. Et puis, il sera bientôt possible pour les jardiniers amateurs de se procurer d'anciennes semences jusque-là interdites à la vente. La mesure visant à rétablir la possibilité de vendre aux jardiniers amateurs des variétés de semences relevant du domaine public a donc été validée ce lundi par l'Assemblée nationale après 2 années de censure et de lutte.